Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons en Tanzanie, un important marché de plus de 63 millions de consommateurs. Comment se porte l'économie de la Tanzanie et surtout les opportunités de développement et d'investissement qui s'offrent avec le Maroc? Vous aurez les réponses dans la destination Éco. Mais avant cela, nous parlerons de financement des projets et d'investissement dans les économies africaines et ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, nous allons parler de financement des projets et d'investissement dans les économies africaines. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lawrence Yuta. Il est directeur général au Cameroun de Investors Club for Africa, IC4A. IC4A est un grand fonds d'investissement qui finance des projets en Afrique centrale et de l'Ouest. Bonjour à vous, Lawrence Yuta, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, et c'est moi qui vous remercie.
Alors, avec nous également, Moustapha El Bouri, qui est le directeur général de Best Afrique et de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs africains entre eux, notamment ceux de la diaspora africaine avec les diasporas qui sont en Afrique, mais aussi avec les Africains qui sont à travers donc le continent et qui investissent. C'est un plaisir de vous retrouver, Moustapha El Bouri. Bonjour.
Bonjour, le plaisir est partagé.
Alors, avec vous deux, on va donc parler de ces investissements et je commence avec Lawrence Yuta. Je rappelle que vous êtes le directeur général au Cameroun donc du fonds d'investissement donc Club for Africa. Alors, parlez-nous d'abord de votre fonds d'investissement.
Le club d'investissement spécialisé dans l'accompagnement financier et stratégique des entreprises. Nous opérons sur le continent africain et nous avons une mission qui est de soutenir les initiatives entrepreneuriales en fournissant des solutions de financement adaptées, qu'il s'agisse par exemple du capital risque, des prêts ou des financements hybrides, tout en apportant notre expertise stratégique sur les projets. Mmh. Donc globalement, nous ciblons les entreprises à fort potentiel dans le secteur clé tel que le développement du continent. Nous avons l'agriculture, l'énergie, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures, la technologie, les services financiers. Au-delà, nous jouons également un rôle de mentorat en apportant notre conseil stratégique. Et nous mettons également des investisseurs avec ceux qui sont solutionnés, donc dans un réseau, et on leur donne également un accès aux ressources pour accélérer leur croissance durable.
En tout cas, je pense que c'est intéressant, et surtout de voir un fonds d'investissement africain qui finance en Afrique, parce qu'habituellement quand même, je pense que Moustapha El Bouri ne dira pas le contraire, on est plutôt habitué à voir des fonds d'investissement étrangers, européens, émiratis par exemple, du Golfe ou américains, sollicités, mais là c'est un fonds d'investissement africain. Je pense que c'est très encourageant, Moustapha El Bouri.
Oui, Omar, exactement. Moi aussi, j'étais vraiment agréablement surpris lorsque il est venu me rencontrer à Marrakech, Lawrence. On a discuté de tout ça. C'est vrai qu'un fonds panafricain, c'est quand même très rare. Bon, on n'est pas contre les fonds d'investissement étrangers, hors du continent, mais c'est vrai qu'un fonds panafricain, je pense qu'il a plus, il connaît plus la culture. Il y a, comme a dit Lawrence aussi, les portes de sortie sont différentes quand ils investissent dans un projet. Ils savent évaluer peut-être au niveau mentoring, le mentoring il est plus adapté à notre continent, parce qu'il faut être très clair, les projets ici nécessitent un investissement qui est différent des investissements qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Donc c'est vraiment un fonds qui est très adapté et il a le mérite aussi d'être présent sur une grande partie du continent. Et là on est en train de travailler aussi avec Lawrence dessus pour voir comment élargir un peu et faire un partenariat pour tout ce qui est montage de projet.
Alors, si je reviens donc à Lawrence Yuta, directeur général au Cameroun du fonds d'investissement, donc Investor Club for Africa. Alors, parlez-nous aujourd'hui des réalités du financement des porteurs de projets en Afrique. Quand vous avez des porteurs de projets, comment les financez-vous? Comment procédez-vous?
En fait, ce qu'on va comprendre, c'est que l'Afrique présente un énorme potentiel de développement exceptionnel. Donc, nous avons par exemple la croissance démographique en Afrique, l'urbanisation rapide, la richesse naturelle. Et également, nous sommes arrivés à l'adaptation au niveau des technologies. Ce qui se passe donc, c'est que généralement, lorsque les personnes ont des projets, nous faisons d'abord une évaluation de projet. Et lorsqu'on fait une évaluation de projet, on se rend compte que la personne pourrait nécessiter soit des financements, elle pourra nécessiter soit des prêts, elle pourrait nécessiter soit un accompagnement ou un mentoring. C'est en ce moment que nous intervenons pour le donner non seulement au niveau de la connaissance et la formation, mais également le financement qu'il faudrait pour que son projet puisse décoller. Donc nous ne faisons pas que le financement, mais également nous faisons également l'accompagnement et le mentoring.
Alors cela dit, vous intervenez en Afrique centrale et de l'Ouest. Quels sont les secteurs dans lesquels, tout à l'heure vous avez parlé des secteurs dans lesquels vous investissez, mais quels sont les secteurs qui vous sollicitent le plus pour bénéficier de ces financements?
D'accord, généralement nous avons les PME, les domaines dans
donc les petites et moyennes entreprises.
Les petites et moyennes entreprises. Nous avons également l'adoption dans la technologie, donc les entreprises dans la technologie. Nous avons également dans l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'environnement et les ressources naturelles. Nous avons également des personnes qui ont des start-up ou des incubations qui nous sollicitent également pour un accompagnement.
Alors, est-ce
donc,
facile?
Au niveau des partenariats,
oui, allez-y.
Au niveau des partenariats stratégiques, par exemple, nous avons les partenariats avec des entreprises. Nous investissons dans les entreprises prometteuses en apportant un financement adapté et un accompagnement dans leur stratégie de croissance. Nous avons également les partenariats institutionnels. Nous collaborons avec les institutions financières, les banques de développement et les fonds souverains pour mobiliser des ressources et structurer les solutions de financement innovants. Nous avons également les partenariats avec d'autres investisseurs. Donc, nous co-investissons avec des fonds privés, des business angels, des investisseurs internationaux pour mutualiser les ressources et partager des risques. Également avec des partenariats et des experts locaux, des consultants, les incubateurs, les associations également.
En tout cas, je sens que c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Alors, Moustapha El Bouri, justement, quand vous parlez de cette diaspora africaine, il est vrai qu'on déplore souvent le fait que les fonds envoyés servent d'abord à la prise en charge des proches restés au pays. Mais auriez-vous à encourager peut-être des membres de la diaspora africaine à investir ou à miser sur ces fonds d'investissement pour mieux rentabiliser leur transfert et leurs envois vers leur pays d'origine?
Oui, Omar, vous avez tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, quand on regarde les fonds envoyés sur le continent par la diaspora, plus de 90% sont utilisés en soutien familial. Aujourd'hui, je pense que c'est plus à nous. D'ailleurs, c'est pour ça que, au niveau de Best Afrique et avec des entités comme celle de Lawrence, on est en train de travailler pour faire des montages de projets. Je pense que les gens de la diaspora, il faut leur faire des montages de projets qui sont bien ficelés, bien structurés et qu'on puisse financer par des entités comme celle de Lawrence et qu'eux peuvent venir et participer à ce genre de projet. Mais leur demander de faire des montages de projets, je pense honnêtement, par expérience, c'est très, très compliqué.
Donc il faut leur donner quelque chose.
Des montages de projets qui sont déjà financés.
Disons, un plat prêt à être servi, en fait, ou déjà servi même.
Exactement.
Prêt à être dégusté. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, je donne la parole, peut-être pour terminer, à Lawrence. Lawrence Yuta, directeur général au Cameroun de Investor Club for Africa. Alors, quand aujourd'hui les jeunes ou bien les porteurs de projets présentent donc, disons, leur dossier, vous, quels sont les critères sur lesquels vous insistez davantage pour accorder des financements?
En fait, nous avons un canevas pour la structure des projets qui nous sont propres. Donc, du coup, on va évaluer le projet, voir s'il est bancable et voir si la personne qui porte le projet est effectivement consciente de ce qu'il veut en réalité. Donc, après une évaluation, une étude, en ce moment, on lui apporte un financement qui va avec. Et un mentoring. Parce que comme Moustapha l'a dit, 98% des personnes qui ont des projets ou qui envoient de l'argent de la diaspora, c'est pour la consommation. Donc du coup, lorsqu'il y a un projet qui est à structurer, il faudrait bien non seulement l'accompagner, former également le financer. Dans ce moment, nous sommes des mentors également, des formateurs pour que le projet puisse arriver à maturation et puis c'est vu au plus grand nombre, quoi.
En tout cas, je retiens deux mots, c'est financement plus accompagnement. Merci à vous, Lorenz Yuta, directeur général du Cameroun Investor Club for Africa, IC4A. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie également avec Moustapha. Nous
bien
avons
évidemment.
Projet dans vécu.
Je rappelle que la plateforme Best Afrique donc, aide les investisseurs africains à concrétiser leurs investissements. Mais vous pouvez nous faire la primeur, hein, Moustapha, avec grand plaisir.
Le plaisir est partagé. Oui, donc, comme a dit Lorenz, on est là pour travailler ensemble et pour faire en sorte que le continent avance.
Je pense que c'est intéressant parce que l'Afrique doit justement faire confiance à l'Afrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de parler avec vous d'investissement et de financement des projets en Afrique. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Et nous parlons de la valorisation des ressources minières en Afrique et c'est avec l'ingénieur civil des mines et également ingénieur en propulsion aéronautique, cher Cissé. Comment faire en sorte que ce secteur devienne un levier d'industrialisation des économies africaines? Cher Cissé vient de publier un livre sur le sujet intitulé « Pour une révolution industrielle et minière en Afrique ». L'occasion donc de bien aller en profondeur sur cette question. Bonjour à vous, cher Cissé, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Et bonjour, M. Baldé, et je vous remercie d'avoir fait l'amitié de cette invitation. C'est un plaisir de parler de mon livre et puis d'expliquer un peu le contenu. Merci et bonjour.
Alors, avant d'en venir à votre livre, faisons le point aujourd'hui. Comment se porte ou quel est l'état de l'industrie minière en Afrique?
Actuellement, l'état de l'industrie minière en Afrique, je dirais, est plutôt faible parce que, aussi bien en termes d'investissement, en termes de revenus, alors que l'exploitation en elle-même est plutôt assez, je dirais, prolifique. Quand on regarde, par exemple, les investissements miniers en Afrique, d'habitude, ça gravite autour de 16% maximum des investissements globaux, c'est-à-dire la part relative de l'Afrique dans les investissements gravite autour de 16%, et 16%, c'était en 2012. Sinon, sur les trois dernières années, ça, c'est plutôt dans les 10%, voilà, des investissements. Cela peut être expliqué par le fait que, par exemple, en Afrique, on a plutôt une géographie qui est clément, je dirais, ou clémente, ce qui permet, n'est-ce pas, de réduire les coûts. Et aussi, il y a aussi le fait que le coût de la main-d'œuvre n'est pas très élevé. Tout ceci joue. Mais je pense aussi que les Africains n'investissent pas trop. Donc, on dépend particulièrement des partenaires étrangers pour venir investir en Afrique. Et souvent, cette exploitation minière n'est pas faite de façon équitable puisque ça profite particulièrement à ces sociétés minières étrangères qui se taillent la part du lion au moment où les revenus pour les pays africains sont plutôt faibles et les populations aussi n'en profitent pas beaucoup, aussi bien sur le plan financier, alors que ce sont ces mêmes populations qui subissent, je dirais, les méfaits comme la pollution de leur environnement, le sol, l'eau, ou bien même l'expropriation de leurs terres, parce qu'on ne peut pas faire l'exploitation minière sans déplacer des populations.
Alors,
aussi bien même la faune.
Cela dit, quelles sont les ressources minières les plus sollicitées, qui intéressent le plus les investisseurs étrangers en Afrique?
Voilà. Donc, si on fait, par exemple, la cartographie, n'est-ce pas, des ressources minières, on voit que l'Afrique a toute une variété, hein, que ce soit ce qu'on appelle le groupe des métaux platinés, le palladium, le platine, mais aussi la ressource, je pense, qui est la plus exploitée, c'est l'or. L'or, c'est vraiment, alors que l'Afrique n'en dispose pas beaucoup en termes de réserves, contrairement à d'autres ressources. Par exemple, si on regarde les données récentes de l'US Geological Survey, on voit que l'Afrique dispose de 80%, n'est-ce pas, des réserves de platine et de palladium. 80% ou presque, ou 79% des réserves de diamants, plus de 40% des réserves de manganèse, presque 40% pour le cobalt, qui est très en vogue récemment, avec particulièrement les voitures électriques, et je vais y revenir, et puis l'uranium aussi. Donc, il n'y a pas une symétrie entre la réserve et le nombre de projets actifs. L'or, l'Afrique, malgré tout le bruit qui entoure l'or, l'Afrique ne dispose que de réserves d'environ 20% ou moins, je dirais même 17%. Et pourtant, En termes de projets, on a plus de 500 projets aurifères en Afrique. Alors que peut-être pour le manganèse, par exemple, on a 40% des réserves ou 45% des réserves, alors qu'on n'a que 30 projets sur tout le continent. Je pense que ça dépend de l'offre et de la demande. Selon les prédictions, moi, je vois que des ressources comme le cobalt ou comme le cuivre, voire même la bauxite qui est utilisée pour l'aluminium, vont faire des percées parce qu'il y a ce qu'on appelle la transition énergétique et l'Afrique dispose de presque 30% des réserves pour ces minéraux qui sont riches en transition énergétique. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat actuellement sur comment faire pour réduire les émissions de carbone. Donc, l'objectif de cette transition, c'est de faire qu'en 2050, il y aura 0% d'émissions de carbone. Et pour cela, il faut miser sur les voitures électriques. Et l'Afrique a une très grande richesse pour ces minéraux qui seront utilisés dans les batteries de ces voitures. D'ailleurs, j'ai même expliqué pourquoi pas l'Afrique devra développer une certaine industrie, automobile ou sinon même une industrie que j'ai appelée la Green Energy Valley ou bien Cobalt Valley ou Lithium Valley, que j'ai un peu tiré de la Silicon Valley des États-Unis. Et dans cette vallée, particulièrement autour de la région du Congo, on pourra fabriquer des batteries pour les voitures électriques. Alors, mais cela va demander bien au final.
Alors, donc tout ceci nous pousse à plonger au cœur du sujet de votre livre, c'est l'industrialisation, ce levier d'industrialisation. Alors, selon vous, comment faire en sorte aujourd'hui pour que ces ressources minières soient source d'industrialisation en Afrique?
Voilà, ça je pense que c'est vraiment la question principale que tout le monde se pose. L'Afrique a une richesse minérale, mais les jeunes ont du mal à trouver du travail. L'Afrique est un continent pauvre, alors que certes, c'est pauvre sur le plan économique, mais on a tout pour être un continent riche et avoir le même niveau d'industrialisation. Si on regarde un pays comme la Corée du Sud s'est industrialisée en à peine 3 décennies. Je pense que tout le monde connaît la guerre de Corée. À la fin de la guerre de Corée, ce pays était, je dirais, même plus pauvre que certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, la Corée produit des voitures, les grandes entreprises, que ce soit en microélectronique, Samsung, Kia, LG. Tout ça sont des géants. Ils se sont développés grâce à leur industrialisation qui recrute plus de 25% de la population active. Donc, il y a ce qu'on appelle la domestication des ressources. Parce que quand on veut faire un développement industriel et technologique, il y a un paramètre qui est incontournable. Ce sont les ressources minières. Vous allez beau avoir de bonnes idées, tant que vous ne les transformerez pas en produits, ça ne sert à rien. Et pour les transformer en produits, il faut quand même avoir la matière première. Et l'Afrique a cette chance, je pense, comparée à d'autres régions, ils sont obligés d'aller chercher ces matières premières-là. Donc, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est de s'approprier de la technologie existante. On n'est plus à l'époque de la première révolution industrielle ou de la deuxième où il fallait tout inventer les machines. La technologie existe déjà. Donc, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est de domestiquer ses ressources, d'avoir des politiques d'industrialisation et d'entrepreneuriat qui vont faciliter la prolifération, n'est-ce pas, des PME et PMI, qui pourront, avec l'assistance, n'est-ce pas, des différents gouvernements, devenir des géants, mais aussi investir dans la science, dans la technologie. Si on prend un pays comme le Sénégal, presque 80% des bacheliers sont des littéraires. Donc, et si on veut le développement industriel, je pense qu'il faut augmenter le nombre de scientifiques, aussi bien au niveau des élèves que des chercheurs, parce que le développement industriel va reposer sur l'innovation et l'innovation va reposer sur la recherche. Donc, il faut vraiment augmenter le nombre de travailleurs scientifiques, domestiquer les ressources, c'est-à-dire créer des sociétés nationales, des entreprises publiques et s'assurer que la gestion sera, n'est-ce pas, responsable pour éviter certaines erreurs, mais aussi créer un climat des affaires favorable qui va attirer les investisseurs. Et dans ce cas, je pense qu'un pays comme le Sénégal ou le Ghana, avec leur stabilité politique, ont une chance, même si on a du mal à l'exploiter à bon escient. Et aussi, il faudra investir dans la santé. Voilà. Parce qu'il faut que les travailleurs soient en bonne santé et qu'ils soient, n'est-ce pas, dans les conditions physiques de pouvoir travailler.
En tout cas, c'est important et d'ailleurs, c'est à retrouver dans votre livre que je recommande vivement, donc intitulé « Pour une révolution industrielle et minière en Afrique ». Merci. Merci à vous, cher Cissé. Je rappelle que vous êtes ingénieur civil des mines et ingénieur en propulsion aéronautique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, M. Baldé, pour cette invitation.
À très bientôt.
Destination Éco.
Nous allons en Tanzanie, et c'est en Afrique de l'Est, sur les rives de l'océan Indien. La Tanzanie, c'est un important marché de plus de 63 millions de consommateurs. Comment se porte l'économie tanzanienne? Nous en parlons avec Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin. Bonjour à vous, Idriss Lingé.
Bonjour Marc, bonjour aux auditeurs de Midi Radio. Aujourd'hui, nous allons leur parler de la Tanzanie. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Est, juste à côté du Kenya. Et pour information, c'est le pays qui abrite le mont Kilimandjaro. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est beaucoup plus facile d'accéder à cette montagne historique de l'Afrique par le Kenya. Alors, la Tanzanie affiche une croissance économique notable avec un produit intérieur brut réel qui a augmenté de 5,3% en 2023 contre 4,7% en 2022. On attend encore les chiffres de 2024. Le PIB en Tanzanie, au contraire de beaucoup de pays africains, n'est pas soutenu par le pétrole, n'est pas soutenu par les mines, mais il est soutenu par l'agriculture, la construction et l'industrie manufacturière. Donc c'est une économie qui est adossée sur un système productif. Et de plus, on note qu'en Tanzanie, l'inflation est restée assez modérée. D'ailleurs, elle est passée de 4,3% à 3,8% en 2023. Ce qui veut dire que les prix n'augmentent pas aussi vite en Tanzanie. Au contraire des pays comme par exemple le Ghana ou encore le Nigeria, où on a vu des chiffres d'inflation à deux chiffres. Et cela grâce à une politique monétaire bien contrôlée. Il n'y a pas beaucoup de spéculation sur le shilling tanzanien, ce qui fait que la monnaie conserve une certaine stabilité et le pays parvient à régler des problèmes liés à la balance des paiements. Alors, l'agriculture est un pilier de l'économie en Tanzanie. L'agriculture, elle représente 25% du PIB, elle emploie 70% de la population active. Et le secteur minier, qui est riche, tel que l'or, les pierres précieuses, apporte 4% du PIB, comme je vous le disais. Le tourisme et de la biodiversité de la Tanzanie font que ce secteur représente 10% du PIB et de l'emploi.
Alors, Idriss Lingé, ce sont donc des indicateurs important sur l'économie tanzanienne. Alors, vu du Maroc aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'investissement qui se présentent avec ce vaste marché qu'est la Tanzanie?
La Tanzanie offre des opportunités d'investissement assez importantes, notamment pour les Marocains qui ont développé des techniques et des compétences sur les chaînes de valeur agricole. Mais la Tanzanie est aujourd'hui aussi en train de travailler sur le développement du pétrole, du gaz, mais aussi des mines et surtout l'industrie manufacturière. Il y a une opportunité pour le Maroc de venir investir dans ce pays, dans ce que le royaume a su faire en termes de production de voitures, en termes de montage de certains équipements technologiques pour cibler des pays situés sur le côté de l'océan Pacifique. Le gouvernement met en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires, moderniser les infrastructures, faciliter l'accès au financement dans le cadre d'une vision de développement. Le défi, par contre, pour ceux qui vont en Tanzanie, c'est que vous devez vous y mettre à parler le swahili. Ils parlent très bien anglais, mais tout le monde parle swahili, y compris dans les bureaux et dans les documents administratifs. Il faudra surmonter cela. Mais au-delà de tout, la Tanzanie, c'est vraiment un pays de rêve en termes de destination d'investissement. Pour ceux qui ne veulent pas juste aller visiter l'enclave sous autonomie de Zanzibar.
Merci à vous, Idriss Lingé, pour tous ces éclairages sur l'économie tanzanienne. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin.
À très bientôt pour un autre pays.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Media Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Media et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.